Chapitre 4 La nuit du mystère 9 heures du soir. Rosine, les bras croisés, le regard soucieux, allait et venait du salon à la salle à manger. La porte était ouverte à 4 battants, et par cet effet, les 2 petites pièces se totalisaient. Mais l'exiguïté de l'habitation résistait au procédé. Le piano à queue prenait le tiers du salon, la table de la salle à manger ne laissait autour d'elle qu'un étroit promenoir. Rosine contournait des sièges conçus pour de plus vastes lieux et qui se souvenaient de la rue Guynemer. Une seule lampe brûlait sur la travailleuse où la broderie délaissée attendait qu'on la reprît ou qu'on la pliât. Dans la demi-clarté, l'ordonnance des choses, la plantation du décor avait un air d'apprêt. Cet air indéfinissable d'arrangement et de luisance qui révèle des soins récents et une réception prochaine. Chaque vase avait son reflet, chaque fleur était à son poste. Les étoffes faisaient des plis voulus. L'armée des bibelots était sous les armes. Point de chaise qui ne fût orientée pour le mieux. La bergère, de quart en coin, s'efforçait de tenir le moins de place possible. Les lampes, pour briller, n'attendaient qu'un signal. Noyée d'ombre, mais chargée de dentelles, de cristaux et d'orfèvrerie, la table étincelait en sourdine, comme impatiente de resplendir au commandement des flambeaux. Monsieur de Crochant se faisait désirer. Rosine, parfois, cessait de marcher. Elle écoutait, prenant les battements de son cœur pour des pas dans l'escalier. Régina, passant la tête par l'entrebâillement de la porte, dit joyeusement « Ah, le voilà, je l'entends chanter !» Rosine était sur le palier, contenant dans son sein les transports de l'ivresse. Monsieur de Crochant montait en vérité, précédé de sa voix. Il travestissait sans vergogne l'air de bravoure de Don José. Halte là, qui va là, dragon d'Alcala? Halte li, qui va li, dragon d'Alcali? Enfin, il chantait. Il avait réussi. Le mystère était percé, le malheur conjuré. Il fit le salut militaire sur la dernière marche, en lançant sa dernière note, ainsi que la tradition de l'opéra comique l'exigeait. Et comme le voisin de palier exhibait une face renfrognée, Rosine poussa le chevalier dans l'appartement. « Crochant, dit-il, santé avec un S !» Il riait d'un large rire silencieux et triomphal et regardait la jeune femme splendide de bonheur. « Alors dites, je sais tout !» fit-il en se touchant le front d'un index rigide. La main crispée sur les yeux, Rosine, comme éblouie, répétait « Mais est-ce possible? Est-ce possible? Oh, n'allons pas trop vite !» reprit M. de Crochant. « Je sais tout, mais je ne dirai rien. »« Oh, non, rien ce soir. À demain, les récits, les mesures prises et le baisser du rideau sur le dernier acte. » Encore demain, mais pourquoi? Je possède tous les éléments de la solution. La solution, je l'ai là, dans la main, comme j'ai le bras de ce fauteuil. Mais alors, que vous manque-t-il? Ah, la confirmation. Je la veux, au port coquetterie, et je sais où la prendre. Demain, avant midi, je l'aurai. On ne peut pas ne pas me la donner. Et quelques heures après, tout sera fini. Allons, soit, excepté Rosine, dont l'enthousiasme se calmait. Mais n'auriez-vous pu, dès ce soir, vous procurer cette confirmation? Je vous avais promis de venir et Stéphane ne m'a pas quitté qu'à 8 heures. Au fait, quel visage faisait-il en rentrant? Morde, comme d'habitude. Il a dîné au galop, il n'avait que le temps. Vous a-t-il parlé de la séance? Vaguement. Impressionné, plus impressionné que la dernière fois. Oh non. Comme je lui demandais des détails, il m'a répondu que tout cela n'était des enfantillages et que le subconscient faisait tous les frais de vos évocations. Mille excuses, chevalier. Monsieur de Crochant se frottait les mains et continuait de rire. Mais vous, reprit Rosine, ne me direz-vous pas ce que vous avez fait ? Séance superbe, madame, séance incomparable. Vous êtes agaçant. Dites-moi ce qui s'est passé, voyons. Eh bien, nous avons évoqué des âmes d'assassins. Oh non, écoutez, ne prenez pas cet air sérieux. Vous me faites peur. Avec vous, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer. Bah, farce ou réalité, l'évocation des morts ne saurait être un passe-temps drôlatique. Vous voulez savoir, je vous renseigne. Oui, Jacques Clément, Ravaillac, Fieschi, Ravachol, Cassério, Anasté, Prancini. Mais quelle salade! Oh, et bien d'autres encore! C'est eux qui vous ont indiqué le mot de l'énigme? Oh, ce mot, ma chère enfant, ne fut pas prononcé. Et c'est cela même qui me l'a fait pressentir. Oh, je n'y suis pas. Vous y serez demain. Enfin, chevalier de grâce, quelle règle avez-vous prise pour guider vos recherches? Une règle de grammaire. Mais laquelle? Oh, il faut tout vous arracher. Deux négations valent une affirmation. Me voilà bien avancé. Ce fut en tout cas une séance admirable, oh, je vous le confirme. Étrange bonhomme à l'œil malin, vieux mystificateur, plein de réticences et de sous-entendus, dont la pensée restait insaisissable. Il poursuivit la taquinant pour bien lui montrer que ses malheurs étaient finis. Demain, petite curieuse, ha ha, vous boirez votre calice jusqu'à la lie. Mais est-il donc certain que Stéphane soit sauvé ? Songeait-elle tout haut, incrédule et charmée. Oh, ça oui, par exemple. Dans 24 heures, il sera délivré du charme qui l'opprime. Et vous serez heureux. Un regard profond le paya de sa peine. Le brave homme, sentant venir l'émotion, coupa court au remerciement. Oh, vous attendez du monde à ce que je vois, fit-il. C'est aujourd'hui la clôture annuelle du concert pourpre. J'ai poussé Stéphane à ramener quelques camarades. Ses diversions lui sont excellentes. On va faire de la musique, oh, fortunatos nimium, restez. Et le puis-je? Il est infiniment préférable que votre mari ne sache pas que je suis venu vous voir en son absence. Complotons jusqu'au bout. Est-ce pour cela que vous parlez à voix basse ? Jusqu'à demain, dit-il, ne confiez à personne ce que je vous ai dit. Il s'efforçait d'être grave, mais, campé devant Rosine, une gaieté victorieuse l'épanouissait. Son œil pétillait comme une étoile, et sous sa moustache aux deux aiguilles trop blondes, le coin de ses lèvres bougeait, sollicité par un rire intérieur. La visite du chevalier se prolongea. Dire qu'ils causèrent serait faux. Rosine exultait. Renonçant à tirer du peintre la moindre explication touchant le sinistre problème ou la manière dont il l'avait résolu, elle se bornait à rappeler ses détresses et à manifester sa joie. C'était pour le chevalier la meilleure des récompenses. Et il s'attardait à contempler une félicité dont il était l'auteur, sachant que de pareilles fêtes sont rares et que leurs souvenirs embaument la mémoire du parfum le plus précieux. Entre-temps, car il n'avait pas dîné, il prélevait des petits fours aux jattes de la table et se livrait à son innocente manie, qui était d'émettre par la bouche et le nez toutes sortes de musiques, allant jusqu'à siffler fort mélodieusement des airs de flûte que son gosier, faisant le hautbois, accompagnait d'un contre-chant. Ses doigts, battant la mesure sur tout ce qu'il rencontrait, rythmaient au tambourin ce duo singulier. Puis tout cessait brusquement. Philomèle s'effaçait devant Triboulet, et le hautbois, redevenu grossier, lâchait un calembour à peu près excellemment pitoyable, aussitôt couronné par une sonnerie de trompe ou une polka pour piston. C'est ainsi que minuit sonna, sans qu'ils l'entendissent, et qu'un bruit de voix dans l'escalier leur annonça le retour de Stephen. « Ciel, votre mari! Oh, mes cheveux se dressent sur ma tête !» fit l'impitoyable chauve en simulant l'effroi. « Mort et damnation! Avez-vous un placard sur vous? Déguisez-moi en ouvrier maçon, j'accepterai d'autres costumes que celui de Badinguet. » « Prenez plutôt l'escalier de service, » conseilla Rosine. Régina, au comble du palier, entraînait M. de Crochant dans le couloir. Il avait mis son feutre au bout de sa canne, et rasant les murs avec mille précautions des plus cocasses, il disparut dans la cuisine comme derrière le portant d'un théâtre gai. Stéphane entrait de l'autre côté, précédé du poète Frusquet, des violonistes Lanteuil et Despérier, du violoncelliste Montcalquin et de l'artiste Buffa. Il était visible que le dernier concert de la saison s'était passé pour le mieux. Rosine entendait par là non l'heureuse exécution du programme, mais l'absence pour Stéphane de tout tracas provenant de la bande infrarouge. Elle en fut extrêmement satisfaite. Le dénouement était si proche qu'elle n'avait plus qu'un désir, la tranquillité du persécuté jusqu'au lendemain à midi. Sans le dire au chevalier, elle avait redouté une seconde que Stéphane ne rentrât point et que le malheur suspendu sur la tête se produisit à l'instant même où les circonstances allaient le rendre impossible. Les hôtes de Rosine la considéraient à la dérobée avec une sorte d'étonnement qu'elle remarqua. « Oh, je ne la croyais pas si jolie, » pensait Lanteuil. « Comme elle est jeune, » songeait le poète. « Les belles dents, » trouva Montcalquin. Stéphane, surpris, cherchait à s'expliquer pourquoi sa femme lui faisait l'impression d'un souvenir vivant. Personne ne supposait que le sourire du bonheur causait seul cette métamorphose de jouvence et de vénusté. On soupa. La gaieté, la splendeur de Rosine tenaient chacun sous le charme. Emporté dans l'aimable mouvement qui naissait de sa grâce et de son esprit, Stephen semblait oublier les tenailles de la bande infrarouge. Il ne connut, à vrai dire, qu'un nuage de tristesse, ce fut lorsque Lanteuil lui proposa de jouer avec lui la sonate de Lequeux. « Non, non, » dit-il, « mes mains ne sont pas encore en état. Dans 6 mois, je serai votre homme. « Monsieur Frusquet, dites-nous quelque chose, » fit Rosine pour rompre les chiens. Buffa réclama à une madone. Mais Rosine se souvint du jongleur insensible qui lance des couteaux dans le fond du poème. Elle vit Stéphane tressaillir. « Non, pas de Baudelaire, dit-il, non, quelque chose de vous. » Frusquet, docile, commença. Je regardais la matinée d'hiver avec son air de jeune fille étonnée d'être née si tard et d'un vieillard. Quand il eut fini, chaudement approuvé, on vit que l'heure s'avançait et qu'il était grand temps, vu les usages locatifs et la mélophobie des voisins, de se livrer aux voluptés de la musique de chambre. Frusquet, Rosine et Stéphane écoutèrent le quatuor de Ravel. On peut raconter un tableau, une statue, mais un quatuor. L'encre ne mord pas sur les sons, et il n'appartient pas à l'écrivain de décrire ce qui doit être célébré par 4 hiérophantes habiles à faire chanter les cordes. Qu'on sache seulement que rien n'était plus beau que d'entendre le chef-d'œuvre assemblé dans le silence ses voix pathétiques, ses cris transfigurés, et jusqu'à ses murmures qui deviennent musique en restant des bruits. Rien de plus beau, si ce n'est à voir le visage de Rosine et celui de Stéphane, le jeune homme trouvant l'oubli de ses souffrances, où sa femme puisait un surcroît d'allégresse et l'accomplissement de sa béatitude. Le jour se levait quand on se sépara. Rosine regarda dormir Stéphane. Il reposait paisiblement, là sans doute, mais sans doute aussi calmé par une heure de détente et d'agrément. Elle, la joie, la tenait éveillée avec l'impatience et la curiosité. Elle sentait très nettement que la fin de leurs mots n'était pas la seule cause de cette douce exaltation qui faisait en elle bouillonner la vie comme le printemps fait aux arbres. Ne plus craindre, ne plus trembler pour son mari, c'était l'immense félicité, mais qui se renforçait indubitablement de la délivrance des ténèbres. Savoir enfin le secret de Spectrophélès Melchior, des bijoux, des couteaux, des billets, de la bande infrarouge, connaître ce qui s'était passé dans le rapide de Marseille, apprendre aussi comment le chevalier avait vaincu le mystère, tout cela comptait dans son bonheur multiple. On l'avait intrigué jusqu'à la douleur, et aujourd'hui qu'elle allait tout savoir, elle savourait avec raffinement ces dernières minutes d'ignorance et de peur. Elle jouait avec sa terreur, qu'elle prolongeait fictivement, certaine qu'elle était de n'avoir plus rien à redouter. Mais déjà, le tranquille bon sens avait repris possession de sa pensée. Elle ne doutait plus que l'ombre évanouie, ce qui laisserait voir serait naturel, vulgaire, positif et sans plus de prestige qu'une carcasse au soleil. C'est pourquoi non seulement sa grande félicité s'augmentait du plaisir de tout savoir bientôt, mais au plaisir de tout savoir bientôt s'alliait la jouissance de ne rien savoir encore. Un coup de sonnette la tira de cette songerie délectable et quelqu'un frappa violemment à la porte d'entrée. Il était 7 heures du matin. Elle entendit Regina se hâter dans le corridor, cliqueter le double verrou avec promptitude et une voix inconnue prononcer des paroles inintelligibles. Révulsée dans toute sa chair, elle sauta du lit et passant une robe de chambre entr'ouvrit la porte. Stéphane s'éveilla tout d'une pièce. « Qui est là ? » dit-il d'un ton bref. L'homme dans le couloir disait « Je veux lui parler. » Rosine alors reconnut la voix de Crépin, le domestique du père Orlac, mais en même temps elle observa combien cette voix était sourde et pâteuse. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle en se montrant. L'autre se mit à bredouiller des mots sans suite. Il était plus mort que vif et sa face martelée reflétait une terreur panique. Pas de chapeau, il avait des pantoufles, un gilet d'intérieur et un tablier blanc pas très propre. Regina le fit asseoir sur le coffre à bois. Stéphane arrivait, presque aussi blême que lui. Le veuve allait et étendit une main vacillante. « Mais monsieur de Crochant, prononça-t-il avec peine, « eh bien, venez, venez vite. »« Mais monsieur de Crochant, questionna Rosine, atterré quoi ?» La mâchoire du valet se convulsa dans un mouvement hideux. « Mort !» souffla-t-il, « venez !» Regina lui apportait un verre de rhum. Pendant qu'il le buvait, d'une main maladroite et de lèvres goulues, Stéphane et Rosine s'habillaient à la hâte. Fébriles, agacés, ils brutalisaient leurs vêtements, s'embrouillaient, arrachaient, tiraient. Il connut le mauvais contact du faux col et des manchettes sur la peau moite encore de sommeil. Elle éprouva l'abandon du sans-corset et le négligé des bottes lacées à la diable, une languette restant prise sous le pied. Il se taisait. Rosine, d'abord sidérée, recouvrait peu à peu l'usage de son cerveau. Rude coup. 5 minutes auparavant, elle se croyait maîtresse du sort, triomphante, libre, et c'était un leurre. L'ennemi s'amusait d'elle comme le chat de la souris. Il l'avait laissée courir un peu de ci, de là, et d'un bond, les griffes terribles venaient de la ressaisir. Mort, au moment de parler. « Voici mon père seul à présent, » disait Stéphane en cherchant ses bretelles. « Oh, pour une perte, c'en est une !» Crépin apparut dans la chambre dont les persiennes n'étaient pas encore ouvertes. Sa bouche se démena, mais les sons n'en sortirent qu'au bout d'un instant. « Venez, » dit-il une fois de plus. « Mais comment est-il mort ?» demanda Stéphane. « Mais je l'ai trouvé ce matin, en venant le réveiller à 6h30, comme tous les jours. » Régine lui apportait du café. Il but encore. « Oh, j'en deviendrai fou, » reprit-il. « Oh, quelle histoire, monsieur Stéphane !» On était prêts, le valet suit monsieur et madame Orlac. Et celle-ci, il est mort subitement. « Ne me demandez rien, ne me demandez rien !» faisait Crépin en se bouchant les oreilles. « Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne veux plus me rappeler ça. Vous verrez, mais moi, non, 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 non !» Il marchait, les yeux fixes, très vite. Les passants se retournaient sur leur passage.